Benjamin Biard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP. Alors, nous avons posé à nos auditeurs la question suivante. Comprenez-vous que les Français manifestent contre la réforme des retraites vu de chez nous, Benjamin Biard, est-ce que vous avez l'impression que les Belges comprennent ce qui se passe en France?
Je pense effectivement dans une double mesure. Premièrement, il est question ici d'une réaction très forte par rapport à une réforme qui va impacter effectivement un grand nombre de personnes en France, spécifiquement ici, puisqu'il est question d'une réforme des retraites visant à repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030. Mais finalement, cette mobilisation sociale qu'on retrouve dans les rues à travers toute la France, particulièrement suite à l'annonce de cette réforme des retraites et puis à la mobilisation de cet outil constitutionnel qu'est le 49-3 pour l'imposer en contournant ainsi le vote par le Parlement, eh bien, traduit en réalité une crise également de la légitimité démocratique dont bénéficie le président de la République et le gouvernement partant. C'est-à-dire que de plus en plus, ce n'est pas une tendance réellement nouvelle, on la connaît également en Belgique, de citoyennes, de citoyens perdent la confiance qu'ils ont octroyée, non pas seulement à certains élus spécifiquement, mais par rapport au modèle, au fonctionnement même de la démocratie. C'est un constat qu'on a dressé il y a déjà plusieurs décennies à travers l'Europe, en France, en Belgique, et qui aujourd'hui, à nouveau dans les conséquences de cette réforme des retraites, eh bien, semble poindre du nez à nouveau.
Vous avez parlé justement du fameux 49-3, il a été brandi par la Première ministre. Que cela représente en France, ce fameux 49-3?
Alors, en réalité, le 49-3 réfère à un article de la Constitution, l'article 49 alinéa 3, qui permet au Premier ministre, à la Première ministre en l'occurrence, Elisabeth Borne, pour le coup, cette fois, d'engager la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur cette réforme des retraites en l'occurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez imposer un texte sans passer par la case vote au sein du Parlement, Assemblée nationale, et Sénat dans le cadre d'un Parlement bicaméral en France, un petit peu comme on le connaît en Belgique, même s'il fonctionne très différemment évidemment, il va y avoir derrière cela une capacité pour les parlementaires de déposer une motion de censure. C'est ce qu'on a pu voir à travers deux motions visant à remettre en cause la légitimité du gouvernement. En cas de vote de ces motions de censure, le gouvernement aurait été amené à démissionner. En cas de non-vote de cette motion de censure, en tout cas si le non l'emporte, ce qui était le cas à 9 voix près, donc on voit que ça s'est joué de manière extrêmement serrée ce lundi, en tout cas pour l'une des deux motions qui étaient déposées, ça veut dire que le texte est réputé adopté. Et donc en l'occurrence aujourd'hui, à travers le rejet de ces deux motions de censure, on voit que le texte, la réforme des retraites à proprement parler, est considéré comme étant adopté. Et Emmanuel Macron l'a encore répété ce mercredi, l'objectif est qu'elle puisse rentrer en vigueur dès le mois de septembre.
Alors, vous l'avez dit, le président Macron propose donc de passer l'âge de la retraite à 64 ans dans un monde vieillissant. C'est une proposition inévitable?
Alors, elle est présentée en tout cas par Emmanuel Macron comme étant inévitable. Toute une série d'économistes considèrent que sur le plan macroéconomique, effectivement, elle fait sens et est inévitable. Il y a évidemment des choix politiques qu'il ne m'appartient pas de trancher, bien entendu. Ce qu'on peut observer, c'est que dans un tas de pays, en Belgique notamment, l'âge de départ à la retraite a déjà été repoussé. On sait d'ailleurs qu'une réforme des retraites en Belgique est particulièrement difficile à accoucher depuis la mise sur pied du gouvernement de Croix, alors qu'il ne porte pas nécessairement sur un retard de l'âge de départ, mais sur le montant de la pension minimale, par exemple, ou les conditions d'un certain bonus pension qui est supposé voir son retour également. Donc on voit effectivement qu'il y a des débats en matière de retraite qui ont vu le jour déjà en France depuis plusieurs années d'ailleurs. Souvenons-nous de la réforme conduite par Éric Woerth sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui portait déjà sur les retraites et qui était déjà pour le moins explosif. Mais on voit que dans un ensemble de pays européens, on a effectivement des mesures qui sont adoptées visant à reporter l'âge de départ à la retraite dans un contexte effectivement où la population est amenée à rentrer sur le marché du travail globalement un peu plus tardivement que ce n'était le cas par le passé et où l'espérance de vie est effectivement prolongée.
Alors, nous, en Belgique, nous passons à la retraite à 67 ans. Les Français manifestent pour ne pas passer à 64 ans. C'est juste parce que le système n'est pas le même. On a l'impression, ici en Belgique, que c'est un caprice des Français.
Alors, je ne dirais pas que c'est un caprice. Effectivement, c'est une réforme qui peut paraître, vu de la Belgique, où effectivement, d'ici 2030, l'objectif est de reporter l'âge de départ à la retraite à 67 ans. On voit qu'en France, on passe de 62 à 64. Je pense en tout cas que ça affecte un certain nombre de Françaises, de Français particulièrement, mais qu'il y a plus que cela. Et quand on voit les mobilisations qu'il y a aujourd'hui en France, au-delà vraiment de cette réforme à proprement parler, il y a au moins un double mouvement que j'ai déjà évoqué. Le premier, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le gouvernement et le recours au 49-3, cet article de la Constitution qui, je rappelle, permet d'éviter ou de contourner le vote au Parlement, permet véritablement d'imposer une réforme de manière légitime. C'est une première question qui se pose en France. Deuxième question qui se pose finalement, ou c'est plus qu'une question d'ailleurs, c'est un état, c'est de se dire on n'a plus confiance dans ce gouvernement. Et d'ailleurs, pour rappel, ce gouvernement Borne ne bénéficie pas d'une majorité absolue, ce n'est pas inédit, c'était déjà le cas entre 1988 et 1993 par exemple en France, mais donc ça nécessite, pour toutes les réformes qui sont adoptées, pour le moindre projet ou la moindre proposition de loi également, de trouver des accords. Alors en Belgique, effectivement, on a déjà une certaine expérience, une certaine habitude de ces fameux compromis à la belge, comme on les qualifie généralement. C'est moins évident en France, dans le cadre d'un système semi-présidentiel, où effectivement, on a traditionnellement un pouvoir, une présidence, un gouvernement qui, derrière lui, rassemble assez largement. On voit que ce n'est plus le cas depuis le mois de juin, et que donc, effectivement, ça traduit, dans les yeux de beaucoup de Français, une légitimité bien affaiblie de la part de la présidence et du gouvernement.
Mercredi, le président Macron, lors d'une allocution télévisée, a fait comprendre que cette réforme passerait coûte que coûte. Il a apporté son soutien à sa première ministre Elisabeth Borne. Est-ce un danger pour lui ou il sait ce qu'il fait?
Je pense que c'est toujours difficile, évidemment, à anticiper. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, en imposant d'une certaine manière cette réforme par ce moyen, eh bien, le fait en toute légalité, évidemment. Le recours au 49-3, c'est prévu dans la Constitution. Le fait de vouloir y aller de l'avant, ben, finalement, il bénéficie d'une légitimité des urnes lui aussi, puisqu'il a été élu directement par le peuple en avril 2022, et donc bénéficie à ce titre d'une certaine légitimité, mais ça ne veut pas dire que le Parlement ne bénéficie pas lui aussi de sa légitimité et que la population qui manifeste dans les rues particulièrement, et particulièrement celle qui manifeste dans le respect du cadre constitutionnel et légal, n'est pas légitime non plus. Et donc effectivement, on est ici dans un équilibre assez délicat et Emmanuel Macron se retrouve face à la difficulté de pouvoir imposer cette réforme et surtout à pouvoir envisager les réformes à venir, qui s'annonceront elles aussi, particulièrement lorsqu'il sera question de se mettre autour de la table avec les organisations syndicales, par exemple, assez compliquées.
Il est évidemment impossible de prévoir l'avenir. On parle de dissolution de l'Assemblée, de référendum. Tout cela est possible selon vous?
Alors Emmanuel Macron a balayé cette piste hier dans son allocution de 13 heures et effectivement ce qu'on pouvait envisager éventuellement c'était l'adoption de cette motion, d'une de ces deux motions de censure qui a été déposée vendredi dernier avant 15 heures et qui a été débattue puis votée ce lundi. Pour rappel, la dernière motion de censure qui avait été adoptée à l'encontre d'un gouvernement, c'est en 1962, ça fait quand même déjà plusieurs décennies, c'était sous la présidence du général de Gaulle, qui avait alors vu son gouvernement, le gouvernement à l'époque, tomber, et ça avait, in fine, provoqué de nouvelles élections qui avaient renforcé la majorité au pouvoir. Ce qu'on aurait pu observer ici, effectivement, Emmanuel Macron avait déjà agité cette perspective, c'était de dire, en cas d'adoption d'une motion de censure, eh bien, je vais, en tant que président de la République, procéder à une dissolution du Parlement pour permettre aux électrices, aux électeurs de se rendre une fois de plus aux urnes et d'exprimer leur vote. Alors, compte tenu du contexte qui est quand même très différent de celui de 1962, où on aurait pu effectivement ici s'attendre à un recul, ou en tout cas des difficultés électorales pour les listes du président de la République, les listes macronistes, on aurait pu aussi s'attendre à une facilité, ou en tout cas une capacité des formations de gauche radicale populiste, comme la liste de Jean-Luc Mélenchon, ou de l'extrême droite, je pense par là particulièrement à Marine Le Pen, éventuellement, mais avec une certaine nuance, à la liste d'Éric Zemmour, qui a publié son ouvrage, son dernier ouvrage il y a peu, qui aurait pu bénéficier d'un tel climat. Mais enfin, on n'en est pas là, et il semblerait qu'effectivement, Emmanuel Macron tente d'imposer cette réforme et le plus rapidement possible de passer à d'autres dossiers qui reprendront la une de l'actualité.
Benjamin Biard, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir.